Les mauvaises nouvelles pour les forces d'occupation franco-américano-otaniennes succèdent au Sahel. Les États et le peuple sahélien étant décidés de mettre fin à l'ingérence militaire étrangère. Peu après le cuisant échec de la tentative de coup d'État au Niger, où Barkhane a tenté sans succès une tentative malienne, le Burkina a voté une double loi très particulière. Dans un des ciels sahéliens sous l'emprise des F-16, des Mirage 2000 et des drones occidentaux, cette double mesure relève d'un méga défi anti-Occident. L'achat ou l'utilisation d'un drone civil bientôt soumis à une autorisation du ministère de la Sécurité. Le Conseil des ministres a adopté ce mercredi 31 mars de 2021 deux avant-projets de loi sur le régime applicable au droit civil et le régime général des armes à feu. Un projet de loi sur le régime applicable au droit civil au Burkina Faso a été adopté par le Conseil des ministres. Il soumettra désormais, s'il est adopté par le Parlement, tout achat, tout transfert ou toute utilisation d'un drone civil à une autorisation d'achat ou de cession délivrée désormais par le ministre de la Sécurité. Le Conseil des ministres a ainsi instruit le ministre de la sécurité a une communication de proximité avec les agences de communication qui font usage de ces drones dans le cadre de leur activité professionnelle afin de les sensibiliser. Un autre projet de loi a été examiné et voté. Il s'agit du régime général des armes à feu, de leurs pièces, éléments, munitions et autres matériels de connexion au Burkina Faso, ce qui permettra au pays de combler un vide juridique incompatible avec les instruments internationaux qu'il a ratifiés. Selon le Conseil des ministres, des armes de guerre et celles civiles seront régies par une seule loi. Les infractions en cas de transfert d'armes seront élargies et plus sévèrement punies en ce qui concerne l'exportation des armes de fabrication artisanale. Elle sera réglementée. À quoi rime cette double loi? Encadrer les forces d'occupation voulait leur interdire tout usage abusif de drones armés déguisés en drones civils contre les populations, puis bloquer aux forces d'occupation la possibilité de tout trafic d'armes au Burkina. On sait que les forces populaires qui aident l'armée à sécuriser le pays ont en fait un franc des succès que Barkhane est malade et qu'elle fait tout pour en ternir l'image. Il y a quelques jours, la première attaque visant l'armée ivoirienne a eu lieu sur les frontières burkinabées, comme l'avait promis il y a de cela quelques semaines le chef de la DCGE quand il a prédit une imminente résurgence terroriste sur la côte. L'attaque est intervenue le jour anniversaire du criminel bombardement de Bouaké, où la France a tenté d'étouffer dans l'œuf la défense nationale ivoirienne. Mais la Côte d'Ivoire est trop riche, trop stratégique, trop puissante pour que l'axe US-OTAN se garde de toute ingérence. D'où ce projet aux allures humoristique qui semble bien cacher une arrière-pensée militaire. Lisons l'info rapportée par les médias ivoiriens. Les plans sont prêts, les fonds également, de la maquette est bien blanche, il ne manque plus qu'un bout de terrain. Dans l'optique de mener à bien ce projet, le mouvement raïlien devrait lancer ce 30 mars 2021 une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit des États membres de l'ONU pour qu'ils se prononcent en faveur de la construction de l'ambassade des extraterrestres. Ces lieux qui seraient à l'origine de la création du monde. Et l'info d'ajouter, en Côte d'Ivoire, le mouvement raïlien encourage vivement le gouvernement ivoirien à l'effet de mettre à sa disposition une portion de terre de 4 km² devant abriter l'ambassade des extraterrestres. Des démarches ont d'ores et déjà été menées auprès de différents gouvernements de la Côte d'Ivoire, précise le guide évêque Yaboni, le patron du mouvement raïlien en Côte d'Ivoire. Ce dernier s'est exprimé mardi à la faveur d'une conférence de presse tenue à Abidjan, au Cocody. Fondée il y a 40 ans par le français Claude Vaurion, d'Israël, ce mouvement qui se dit athée prétend que notre civilisation a été créée par des extraterrestres semblables à nous et dont il faut préparer le retour sur Terre. Leur nom, les Elohim. Beaucoup d'événements témoignent de l'existence des extraterrestres. Les Elohim estiment qu'entre 2025 et 2035, les conditions seraient réunies pour les accueillir. Depuis quelque temps, le mouvement raélien a commencé une diplomatie avec les autorités ivoiriennes à l'effet d'obtenir leur accord pour la construction de l'ambassade. Nous avons commencé à constituer une base juridique sur la construction de l'ambassade, confie Yaboni, précisant que la Côte d'Ivoire n'a pas encore donné son accord malgré les nombreuses démarches effectuées. L'idée d'une ambassade raélienne de 4 km² pour les extraterrestres paraît fantaisiste, à moins qu'on y voie une tentative bien calibrée destinée à créer un siège aux missions bien particulières au cœur de la capitale d'une Côte d'Ivoire où les services secrets occidentaux cherchent éperdument à faire une percée terroriste.
Il arrive que la presse mainstream se trouve si désarmée devant la réalité qu'elle en perd son latin. C'est le cas du monde post-Covid-19 qui voit les USA et l'Europe, pays de colons, plonger tomber au rang des pays de tiers-monde et l'Afrique devenir une puissance économique. Lisons cet article de Jeune Afrique qui n'est qu'un aveu d'impuissance. Moins dépendant des matières premières et relativement épargné par la nouvelle vague de coronavirus, les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest devraient dépasser les 6% de croissance en 2021. C'est un rapport de 2021 d'Africa Pulse sur l'état de l'économie de l'Afrique subsaharienne, mi-fig mi-raisin, qu'a publié le 31 mars la Banque mondiale. Une fois encore, les pays qui dépendent le moins de l'exportation de matières premières devraient connaître une reprise certaine, à l'image de la Côte d'Ivoire, plus 6,2%, de la Guinée, plus 6,6%, ou du Niger, plus 6,9%. Pour Pulse, la première vague de la pandémie a relativement épargné la région. En revanche, malgré des programmes de soutien des États, la croissance s'y est évanouie pour la première fois depuis 25 ans et a reculé de 2% en 2020. C'est moins catastrophique en Europe ou en Amérique latine. Parce que le virus s'y est propagé moins vite, parce que l'agriculture y a été porteuse et parce que les prix mondiaux des produits de base se sont redressés plus rapidement que prévu grâce à la reprise des achats chinois.
Suite à l'étude de faisabilité du projet Monono en RDC, AVZ Minerals a entamé les négociations pour céder la future production. Elle a désormais trouvé des acheteurs pour 80% du spodumen de lithium commerciable, remplissant un des préalables au financement de la construction de la mine. Le producteur chinois de matériaux pour batteries électriques Yibin Tianyi devient le troisième acheteur de la future production de lithium au projet Monono en RDC. C'est l'annonce faite le 30 mars par AVZ Minerals au lendemain de son premier accord de vente d'étain. Selon les termes de l'accord, la compagnie minière cédera annuellement jusqu'à 200 000 tonnes de concentré de spodumen à Yibin Tianyi. L'accord porte sur une durée initiale de 3 ans après l'entrée en production de la mine, mais les parties ont convenu d'une option de prolongation pour 2 ans supplémentaires. Pour rappel, Yibin Tianyi est le premier actionnaire de la compagnie minière AVZ Minerals avec une participation de 8,22% au capital ordinaire. Au Gabon, l'exécutif veut améliorer la contribution du secteur bois à la croissance économique grâce à l'utilisation de la technologie. La résilience environnementale est également visée par la nouvelle initiative. Lee White, ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres, accompagné de son ministre délégué, Charles Vella, et des responsables de l'administration forestière et douanière, a procédé le 27 mars au lancement de la phase pilote du système informatique de traçabilité du bois baptisé MINEF. Ce système de traçabilité des produits bois, souligne l'AEAFP, permettra à l'administration forestière, douanière et fiscale de disposer de données fiables sur l'acheminement de ces derniers en temps réel depuis la forêt jusqu'à leur destination, port d'exportation ou d'usine de transformation. Cela permettra ainsi d'extraire des détails à toutes les étapes de l'exploitation du système avec des étiquettes et des codes-barres à l'aide de technologies mobiles performantes. En Afrique, les PME ont un accès limité aux marchés mondiaux. Pour faciliter le commerce, la start-up Jetstream propose une plateforme digitale pour permettre aux fournisseurs africains d'expédier leurs marchandises. Jetstream Africa, une entreprise de logistique spécialisée dans le commerce transfrontalier au Ghana, se base sur les nouvelles technologies pour assurer les chaînes d'approvisionnement des marchés émergents. Elle est alimentée par un réseau de transporteurs de fret, d'agents en douane et de transporteurs terrestres qui se changent des expéditions de toute taille en jouant le rôle d'intermédiaire entre les marchés mondiaux et le continent africain. Michadi est la cofondatrice de Jetstream Africa. Cette américaine diplômée en philosophie de l'université de Harvard aux États-Unis s'est installée au Ghana afin d'innover dans le secteur de la logistique. Le gouvernement du Sénégal et la Banque africaine de développement ont organisé du 23 au 25 mars dernier à Dakar un atelier technique afin d'accélérer la mise en œuvre du projet de zone de transformation agro-industrielle du sud du Sénégal et accélérer l'intensification du processus d'industrialisation et le développement d'autres agropoles. Cet atelier a été conduit avec le ministère sénégalais du développement industriel et des petites et moyennes industries, la cellule d'exécution du projet et des représentants du ministère de l'économie, de la coopération et du plan et celui des finances et du budget. L'atelier avait pour principaux objectifs d'apporter l'appui nécessaire du gouvernement sénégalais au démarrage rapide du projet Agropole Sud, de renforcer les capacités et de mettre à niveau tous les acteurs impliqués dans l'exécution du projet sur son contenu et les procédures applicables, notamment la cellule d'exécution du projet. Il était ainsi question de passer en revue l'ensemble des activités prévues dans le cadre du projet et d'examiner les conditions de leur exécution, de rappeler les règles et procédures de la banque en matière d'acquisition, de décaissement et de gestion financière et de sauvegarder environnementale et sociale et de s'assurer des mesures prise en vue d'une bonne coordination des activités entre la cellule d'exécution du projet et ses partenaires.